le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui Brice Desmier, pasteur de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France. Le pasteur Desmier est aumônier national des prisons pour la FPF, la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, Brice Desmier nous parle de la communauté. En France, le terme de communauté est trop souvent considéré comme suspect. Nous le rapprochons du mot communautarisme. C'est pourquoi nous lui préférons celui de société civile. Nous parlons beaucoup du vivre ensemble, mais nous n'avons jamais eu autant de mal à vivre ensemble. Une expression que nous n'arrêtons pas d'employer. Dans le même temps, nous essayons aussi de promouvoir un individu entièrement libre de toute attache. Un individu qui vogue au gré des modes et de la société de consommation. Nous n'accédons à l'humanité que par la médiation d'une culture et d'une communauté. Le vivre ensemble est en retrait par rapport au terme de communauté. Mais il est possible de vivre ensemble sans faire communauté. Brice Desmier, bonjour.
Bonjour Olivier Betty.
Pour vous, c'est quoi une communauté ?
Une communauté, c'est un assemblage plus ou moins hétéroclite d'hommes et de femmes qui s'assemblent soit par intérêt, soit parce qu'ils ont quelque chose en commun, comme une langue, une ethnie, une religion qui leur donne l'envie de s'associer ensemble. Alors on peut être en communauté parce qu'on souhaite par adhérer à une communauté, mais on peut être aussi en communauté parce que nous le subissons de la part d'une famille, d'un peuple, d'une ethnie, qu'on est obligé d'appartenir à une communauté. Alors c'est pour ça que ça fait que la communauté est un ensemble plus ou moins cohérent de personnes.
Et pour que ce soit cohérent, il faut du sens. Et mais quel sens vous donneriez à la communauté ? Quel sens on peut donner à une communauté ?
Alors la communauté, on appréhende souvent le terme de communauté en opposition avec celui de modernité. C'est-à-dire, par exemple, prenez la communauté chrétienne, qu'on pense comme une sorte de lien mystique avec le divin. La communauté, c'est aussi parfois pensé comme une sorte de métaphore organique de groupes assez fermés et autoritaires. Au fond, la communauté, c'est donner le visage de toutes les utopies anti-lumière.
Et l'homme dans tout ça, est-ce qu'il a une tendance naturelle à s'associer avec les autres dans cette communauté et pourquoi ?
Alors, on va voir que la communauté se révèle comme une expérience assez primitive et un non-lieu utopique. En fait, la communauté peut être extrêmement charnelle. Et si nous voulons parler le langage sociologique d'aujourd'hui, nous pourrions dire qu'il n'y a pas de réflexion possible sur le lien social qui fasse l'économie d'une analyse des modalités d'association autres que contractuelles. Alors Aristote affirmait que l'homme était un animal politique, c'est-à-dire qu'il était caractérisé par une tendance naturelle à vivre en société. Alors pourquoi l'homme est un être naturellement amené à vivre en société ? Parce qu'il contient en lui-même de manière innée les dispositions nécessaires à la vie en société, c'est-à-dire la vertu, le langage et l'amitié. Pour Aristote, l'amitié est la capacité, et même d'une certaine façon, l'exigence des hommes d'interagir avec les autres animaux de son espèce. Ceci participe à la démonstration d'Aristote de la sociabilité naturelle de l'homme. Et bien sûr, cette sociabilité naturelle de l'homme va être contestée par les philosophes que l'on appellera ou que l'on appelle contractualistes du XVIIe, XVIIIe siècle. Et qui vont tout à fait s'opposer à cette thèse aristotélicienne. Les plus célèbres de ces philosophes contractualistes sont Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. Ces deux philosophes vont chercher à fonder une science de l'homme qui soit rigoureuse et qui nous permette de connaître la nature véritable de l'homme. Hobbes et Rousseau affirment avoir pris comme base de leur réflexion la maxime inscrite sur le temple de Delphes « Connais-toi toi-même, nyotis auton ». Toute l'œuvre de Rousseau est axée sur la connaissance de l'homme. Il ne s'agit pas d'une connaissance de l'homme en général et non plus d'une connaissance de l'homme civil qui vit dans la société actuelle, mais plutôt, et c'est ça qui est intéressant, de la connaissance de la nature authentique de l'homme. L'homme actuel est totalement dénaturé. C'est-à-dire que sa véritable nature, à cause de ce que l'on appelle habituellement le progrès, ou aujourd'hui la modernité, a été profondément altérée, au point d'être presque méconnaissable, écrira Rousseau. Pour Rousseau, l'âme humaine est semblable à la statue de Glaucus, décrite par Platon dans le livre de la République. Que le temps et les orages avaient tellement défiguré, écrit Platon, qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce. Platon se sert de cette image pour montrer dans quelle mesure l'union de l'âme et du corps avait défiguré l'âme humaine. Pour Rousseau, ce ne sont pas tant les facteurs corporels ou physiques qui dénaturent l'âme, mais le rôle le plus déterminant a été joué, dit-il, par l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par la raison. Rousseau est à la recherche de la véritable nature de l'homme. Et pour cela, il faut dépouiller l'homme de tous les dons surnaturels qu'il a pu recevoir et de toutes les facultés artificielles qu'il n'a pu acquérir que par de longs progrès. En faisant cela, nous obtiendrons la connaissance de l'homme naturel, pour Rousseau en tout cas. Voilà la description qu'en fait Rousseau dans le second discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. L'homme donc est un animal moins fort que les uns, moins agile que les autres, mais à tout prendre, organisé le plus avantageusement de tous. L'homme n'est donc pas, selon Rousseau, un animal comme un autre, puisqu'il se différencie de tous les autres êtres naturels par ce que Rousseau appelle la perfectibilité. Grâce à cette faculté de perfectionnement, l'homme va pouvoir donc s'arracher à sa propre nature et se développer dans l'histoire. L'homme s'organise donc en société, soit par nécessité, soit par le hasard des circonstances. La société, c'est un état de séparation bien ordonné dont la cohésion externe repose sur la contrainte, le contrat ou la convention. Je voudrais vous faire entendre un texte de l'Évangile où il est question de la création d'une communauté, mais dont le noyau originel repose sur le don. Attention, hein, il n'est pas question d'opposer cette vision évangélique à une conception plus contractualiste de la société, ni de rechercher avec nostalgie le noyau d'une communauté chrétienne initiale. Vous allez voir que cette communauté ne fait que passer, et pourtant, elle laisse une promesse. Écoutons donc la définition que donne le philosophe Martin Buber de la communauté.
La communauté est l'expression et la manifestation d'une volonté primordiale qui représente la totalité de l'homme et qui, naturellement homogène, repose sur le lien. La société, quant à elle, est l'expression et la manifestation d'une volonté différenciée, produite par la pensée séparée, extraite de la totalité de l'homme et préoccupée par l'intérêt.
Vous êtes sur France Culture, à l'écoute du service protestant, le pasteur Brice Desmier nous parle de la communauté.
Le texte de l'Évangile, où il est question de la création d'une communauté éphémère, est celui de la multiplication des pains. On trouve 6 fois ce récit de la multiplication des pains dans les Évangiles. On le trouve dans les 4 Évangiles, et Marc et Matthieu en ont 2 chacun. C'est la seule histoire que l'on trouve racontée 6 fois dans le Nouveau Testament. D'une version à l'autre, il y a bien entendu des variantes, mais globalement, le déroulement est à peu près identique. J'ai choisi ce matin la version de Marc que nous allons écouter.
il leur dit « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent « 5 et 2 poissons. » Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers et aussi ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes.
Il y a beaucoup d'interprétations de ce texte. On peut tenter l'interprétation rationaliste, qui consiste à penser que Jésus et les foules vécurent dans le désert d'une grande frugalité. C'est le miracle de se priver de tout. Autre interprétation qui va dans le même sens, Jésus et les disciples partagèrent les provisions qu'ils avaient emportées avec eux. Ces interprétations sont sympathiques, mais assez terne et banale. S'il s'agit d'un grand pique-nique ou d'une abstinence organisée, cela ne justifie en rien les 6 versions que l'on trouve dans les évangiles. D'autant que cela n'explique pas non plus les 12 paniers de reste que l'on emporte à la fin. Ces paniers de reste marquent nettement une surabondance étrange. D'autres commentateurs proposent de lire ce texte comme le développement de la multiplication des pains que réalisa le prophète Élisée, texte que l'on trouve dans le deuxième livre des Rois. On part de 20 pains d'orge et le prophète nourrit 100 personnes et il y a des restes. Interprétation intéressante, puisqu'à l'époque de Jésus, on attendait que le Messie amplifie les miracles de l'Ancien Testament. Dans le texte de l'évangile de Marc, on part de 5 pains et l'on nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. D'autres commentateurs ont vu dans ce texte une représentation symbolique de l'enseignement de Jésus aux foules ou une préfiguration du grand repas messianique à la fin des temps. Nous pouvons aller aussi sur une pente sociale où Jésus, dans ce geste, annonce qu'il prend en charge la misère physique des gens et un jour viendra où les hommes n'auront plus faim. Belle interprétation, mais dans ce texte, il n'est nullement question de famine. Il est dit que tous ces hommes et ces femmes peuvent très bien aller acheter de quoi manger. Les disciples mettent seulement en garde contre la fatigue d'un tel déplacement après une journée d'enseignement. Toutes ces interprétations ne s'excluent d'ailleurs pas l'une de l'autre, mais elles se focalisent toutes sur la multiplication ou sur le partage du pain, et passent sous silence, me semble-t-il, le véritable miracle de ce texte. Devant cette multiplication des pains, on essaye soit de rationaliser le geste de Jésus, soit de l'allégoriser. La lecture des miracles dans la Bible pose toujours, d'ailleurs, la question de leur interprétation. Surtout dans un monde comme le nôtre, qui est totalement désenchanté. Dans le monde de Jésus, le miracle est presque quotidien. Cela fait partie de la vie courante et il existe une véritable concurrence entre les différents thaumaturges qui rivalisent d'inventivité. Je voudrais être légèrement provocateur. Mais pour nous, ce qui est important, ce n'est pas tellement qu'une foule immense ait pu manger à sa faim il y a 2000 ans. mais la manière dont l'Évangile le raconte et comment Jésus se positionne dans cette histoire. Le véritable miracle de ce texte n'est donc pas qu'une foule ait pu manger, mais que cette foule ne se soit pas dispersée pour manger.
Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Le pasteur Brice Desmier évoque la communauté.
Qu'une foule soit restée manger ensemble peut paraître profondément banal, et pourtant on peut le traduire comme un enseignement en actes et non plus en paroles. La foule de cette multiplication des pains se constitue comme communauté rassemblée autour du Christ. C'est d'ailleurs la seule et unique fois dans l'Évangile que le Christ va transformer un groupe hétéroclite en communauté. Dans les évangiles, soit Jésus rencontre des personnes singulières, soit il se déplace accompagné d'une foule bigarrée sans référence, une multitude sans nom et sans projet. C'est ici pour la première fois, il y a projet. Et un double projet. D'une part, en direction des disciples, qui deviennent responsables de la foule. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus. Et d'autre part, l'organisation de la foule en communauté. La foule au début du texte est présentée comme des brebis n'ayant pas de berger. On retrouve cette expression dans l'Ancien Testament. Elle désigne Israël en position de détresse en raison de la disparition ou de la défection de ses chefs. Cette allusion tout à fait transparente laisse penser que l'évangéliste met en cause directement la façon dont les chefs politiques négligent leurs fonctions. Il est dit de Jésus, à la vue de cette foule, qu'il est ému aux entrailles. Les entrailles qui sont ici le siège de la pitié, de l'amour. Cette allusion à l'absence de souverain ou de chef politique doit nous interroger sur la place que Jésus va prendre au milieu de cette foule. Jésus va permettre à cette foule de devenir peuple. Qu'est-ce qui fait l'unité d'un peuple ? Pourquoi le peuple peut se substituer à la collection d'individus singuliers qui arrivent des villages aux alentours ? Parce que l'unité d'un peuple ainsi créé n'a pas son centre en ce peuple même. L'unité d'un peuple est extérieure à lui. Si nous suivons Thomas Hobbes, par exemple, l'unité d'un peuple est constituée par le souverain que le peuple désigne. Pour Thomas Hobbes, dans l'instant même où le souverain est institué, le peuple disparaît en tant que peuple parce que le peuple se trouve en dehors de lui, dans le souverain. Alors nous allons voir que Jésus procédera exactement à l'inverse. Alors il va les enseigner. Premier élément de la constitution d'une communauté, l'enseignement. Comme le dirait Rousseau, pour percevoir le bien commun et pour œuvrer en vue du bien commun, il faut être suffisamment informé. L'enseignement est fondamental pour créer le collectif, souvent une priorité du Christ. La foule se définit souvent comme celle qui est enseignée. Cette fois-ci, on va aller plus loin, puisqu'elle sera non seulement enseignée, mais nourrie. Il faut ici le répéter, nous ne sommes pas en situation de famine. Et l'enjeu qui se présente est le suivant, rassembler pour manger ou disperser pour manger? Le miracle est là. Christ organise la foule en groupe, il l'installe dans l'espace qui au début du texte était un lieu désert, sans dénomination, c'est-à-dire disponible. Et cet espace désert devient le lieu de naissance de la communauté. Cette communauté se définit par une seule chose, le don. L'identité de la communauté créée par Christ se confond donc totalement avec le donateur. Georges Bataille définit ainsi le don. Le don qui est abandon, voulait être abandonné, à perdre sans esprit de retour, sans calcul et sans sauvegarde, jusqu'à son être qui donne, d'où l'exigence d'infini qui est dans le silence de l'abandon. C'est le propre de la communauté chrétienne qui naît sous nos yeux dans ce texte. Expérience où la distance entre la fin et les moyens est abolie. Il n'y a plus ni fin ni moyen, mais un acte qui remplit l'espace de signification du sujet et fait qu'on est dépassé par ce qui passe par nous et ce qui passe en nous. L'expérience du don est en quelque sorte l'abandon à l'inconditionnalité. On en arrive donc à l'idée que dans le don, non seulement le retour n'est pas voulu, mais le don lui-même ne l'est pas. En Christ, le don va de soi, le don se donne lui-même. Ce n'est plus le sujet qui donne, mais le sujet qui obéit au don, qui suit le don, qui est emporté par le don. Au centre de cette nouvelle communauté, il y a le don, le lien organique, dont parlait Martin Buber dans la définition que nous lisions tout à l'heure. Et elle est orchestrée par le Christ, par une parole, parole qui est celle de la bénédiction et un partage sensible, charnel, qui est celui du pain. Le Christ positionne une expérience sociale fondamentale par ce don. La communauté rassemblée pour l'occasion expérimentera ses propres fondements. Ce qui nous rattache à elle au-delà des règles cristallisées et institutionnalisées. Une expérience qui concrétise la tension entre l'individu et la société, entre la liberté et l'obligation. Pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, une expérience où la société est vécue comme communauté. Si nous reprenons ici l'affirmation de Hobbes, qui dit que le peuple disparaît une fois qu'il nomme son souverain, Jésus fait exactement l'inverse. Il se retire, mais il laisse à cette foule devenue communauté et aux communautés à venir à gérer les 12 paniers de reste. Le texte de la multiplication des pains met en évidence les deux dimensions antinomiques du christianisme. Celle du Deus absconditus et celle du Dieu homme. Ou autrement dit, toute philosophie de Dieu doit passer entre ces deux écueils. isoler Dieu du monde au point de l'y rendre étranger, l'unir au monde jusqu'à méconnaître l'infinie distance qui les sépare. Une antinomie, il faut une continuité entre le courant et la source, et il faut, entre l'absolu et le reste, une coupure qui soit un abîme. Bien entendu, d'autres textes évoquent cette antinomie, mais celui-ci a la particularité de traduire cette antinomie en constituant une communauté qui repose sur une transcendance et qui vit de l'immanence du don. En lisant et relisant ce texte, nous constatons qu'il ne s'agit pas d'un banal miracle, si l'on peut dire, où une foule est nourrie, mais bien la constitution du lien organique qui posera les fondements de la communauté chrétienne. La communauté pourrait être la pensée toute moderne du partage par l'homme de la vie divine. La pensée de l'homme pénétrant dans l'immanence pure. Une question tout de même demeure. Pourquoi dans ce texte la foule reste foule? Jamais il est dit qu'ainsi rassemblés, ils forment le nouveau peuple de Dieu, le nouveau peuple chrétien, etc. Parce que l'objectif de ce texte n'est pas de fonder le point d'origine d'une nouvelle organisation politique d'Israël. Ce n'est pas un texte fondateur dans ce sens-là. Le texte de la multiplication des pains et des poissons reste fondamentalement un texte de passage, un texte de transition. Personne ne s'installe à la manière des restes qu'on emporte. Ces restes qui sont la promesse de nouvelles communautés, ces restes qui nous sont destinés pour que nous vivions ensemble du don initial. Que Dieu vous bénisse.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. La communauté, c'était le thème de la méditation du pasteur Brice Desmier de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France. Le pasteur Desmier est aumônier national des prisons à la Fédération protestante de France. Un grand merci à vous pour votre écoute. À la réalisation, Alexandre Manzanares. À la prise de son, Guillaume Ledu. Lecture, Esmeralda Croy. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation et télécharger le texte? Je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.